Vous écoutez
RMC. RMC, les meilleurs moments de Rotten sans flamme.
Benoît Boutron.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur RMC, les meilleurs moments de Rotten sans flamme ce soir de 18h à 20h. Jérôme Rotten, toute la bande. Et en leur nom, je vous souhaite à tous une excellente année 2026. Nous sommes le dernier jour de l'année 2025. On s'est régalé avec vous depuis la reprise à la fin du mois d'août. On espère que vous serez encore là en 2026 pour la Coupe du Monde qui arrive rapidement. RMC, on est la radio officielle et on va se régaler. On sera avec vous pour vivre ce grand moment de sport et de foot. Le programme aujourd'hui, des meilleurs moments de Rotten sans flamme, que des grands débats à revivre et un thème qui est revenu régulièrement dans le Allo Jérôme. La crise à l'OGC Nice, la première partie de saison très délicate pour les Niçois. Deux figures niçoises nous avaient rendu visite pour nous en parler. Alain Marchal, des grandes gueules qu'on remercie et qui n'avait pas poussé un coup de gueule il y a quelques semaines. Et puis Alexis Bosetti, ancien joueur, membre des Ultra Niçois, qui lui aussi était venu dans Rotten sans flamme. Rendez-vous 18h45. À 18h30, un procès qui là aussi avait marqué la première partie de saison, le procès de Florian Thauvin, qui était accusé à l'époque de ne pas être une légende de l'OM. On avait fait ce procès le 24 octobre. Autre procès, le procès d'Ilia Zabarni, le défenseur parisien accusé de ne pas répondre aux attentes. C'est le seul joueur de champ que le PSG a recruté l'été dernier. Et puis on démarre tout de suite avec un autre grand débat autour du Paris Saint-Germain. Est-ce que le PSG a envoyé un message à l'Europe? Nous étions au lendemain de la victoire parisienne à Barcelone. Débat avec Jean-Michel Larquet et Tony Vérel. Écoutez.
La puissance, que la puissance, j'ai pas connu la défaite depuis mon existence.
Le but, l'ouverture du score du Barça, Ferran Torres.
Il y en a un foutre, on s'en fout.
L'égalisation parisienne, Mayoulou.
Ça fait un partout entre le Barça et le PSG.
Aujourd'hui, on montre à tout le monde que peu importe le joueur qui joue, on peut jouer comme le Paris Saint-Germain de la soirée.
Ramos, le but, le but, le but, le but. Parisien Gonzalo Ramos, servi par Hakimi. C'est fini,
incroyable.
La victoire du PSG, c'est pas pour ce soir la revanche des Catalans. Ils l'ont annoncé qu'ils étaient revanchards après l'élimination en quart de finale il y a deux ans.
On est passé par là et c'est pas pour autant dire la, faire la fine ball.
La puissance,
tu fais vraiment ringard. Là, ça me gêne, j'ai des frissons de gêne. Jérôme, arrête de faire ça. Alors, une leçon de foot, personne ne peut dire que ce n'est pas mérité. La presse catalane a encensé le PSG ce matin, a détruit le Barça également. Paris, qui était privé de 5 joueurs titulaires, est allé s'imposer à Barcelone chez un des favoris de la compétition, victoire 2-1.
Il faut qu'il recrute.
Ouais, certainement. Un club, le Barça, qui se considère comme la meilleure équipe d'Europe. Parlons-en avec Arthur Perrault, qui est rentré de Barcelone. Salut Arthur.
Salut messieurs, bonsoir à toutes et à tous.
Bon, belle salut victoire, Arthur. Une victoire qui porte le sceau de Luis Enrique. Quelle performance encore du coach parisien hier soir.
Et oui, tu as commencé à en parler sans Marquinhos, Dembélé, Doué et Kvaratskhelia. Paris s'en sort avec la manière d'un calme olympien et grâce à un but du jeune Seni Mayulu avec un état d'esprit irréprochable. De quoi rendre fier l'ensemble du groupe, comme Vitinha face aux médias hier. Il a été très clair. Les joueurs qui ne sont pas souvent là ont donné une grande réponse. C'est une grande prestation du PSG selon lui. Un avis partagé aussi par l'entraîneur Luis Enrique.
N'importe quel que soit les joueurs qui portent le maillot de Paris Saint-Germain, nous jouons avec cette identité. Face à Barcelone, c'est toujours difficile. On a surmonté cette pression de l'adversaire et on a fait un deuxième mi-temps de très très haut niveau. Il faut continuer, il faut préparer les prochains matchs. C'est important pour nous en termes de confiance.
La surprise du coach espagnol pour cette rencontre, la titularisation d'Ibrahim Mbaye préféré à Kang In-Lee. Pour staff du PSG, le joueur 17 ans pouvait apporter davantage de mobilité et d'efforts défensifs. Un choix payant, là aussi. Dans la foulée du match, Nasser Al-Khelaifi a lui échangé avec Robert Lewandowski, l'attaquant du club catalan, expliqué avoir été impressionné par le PSG avec son effectif jeune et son esprit d'équipe irréprochable.
Merci Arthur. Le PSG a-t-il envoyé un message à toute l'Europe? 32-16 pour participer au débat. Jérôme.
Le PSG a envoyé un message à tous ses détracteurs qui ont dit il n'a pas recruté, ils n'ont pas doublé les postes, c'est problématique, c'est ceci, c'est cela. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Je pense que, en effet, à travers ce genre de prestations, ça montre à quel point le projet est validé du Paris Saint-Germain, parce que tu gagnes pas par hasard comme ça à Barcelone, même s'il faut de la réussite, ils en ont eu hier, mais je pense qu'ils ont fait, ils ont montré que ce club avait vraiment avancé sur les derniers mois, qu'aujourd'hui c'est un club qui est tout là-haut et il le mérite. Et vraiment, hier, moi, je suis impressionné de leur performance, du calme qu'ils ont mis en place. Pourtant, il y a une équipe qui était rajeunie par la force des choses. Mais le calme, quand t'es mené 1-0, que la première mi-temps, en effet, bah, tu la maîtrises pas tout le temps, parce que Barcelone a été bien inspiré pendant 15-20 minutes, que c'était compliqué. Il y a beaucoup d'équipes qui auraient, avec tout ce qui s'est passé depuis le début de saison, les blessures, le fait de pas avoir de vacances, le fait d'être aussi déjà fatigué psychologiquement, mentalement, après seulement 2 mois de compétition. Alors. Et puis là, tu t'aperçois d'une chose, c'est que le PSG, bah, il y a pas de fatigue, parce que ils sont monstrueux sur la scène européenne. Vraiment, ils ont une confiance.
La fatigue, il y en a. On a vu Fabien Ruiz qui a grimacé encore.
La fatigue mentale, elle a pas existé hier. Et pourtant, on le sait tous que c'est difficile d'une année à une autre de quasiment pas couper, parce que ça a été le cas des Parisiens, l'ensemble de l'effectif, même des plus jeunes qui ont joué hier, et à l'arrivée cette force-là qu'il dégage avec un entraîneur qui est génial, parce que franchement, cet entraîneur-là, il lit les adversaires, il mange tous les autres techniciens européens, un par un, il les mange, il les bouffe. Il a bouffé celui de l'Atalanta il y a 15 jours. Hier, Flick, bah écoute, pourtant, il a quasiment toute son équipe, à part Rafinha, mais bon, c'est beaucoup. Mais mine de rien, dans la façon de fonctionner, Flick, il s'est pas réinventé sur le match d'hier, pas du tout. Il est resté dans ce que, soi-disant, ils savent très bien faire. Et bah, à l'arrivée, il a pris dans le nez, parce que la bataille du milieu de terrain, on en a parlé avant le match, et comme n'importe quel grand match européen, il faut gagner cette bataille-là, même avec des absences. Et hier, le PSG, t'imagines qu'à Barcelone, avec ce Barça-là, qui est sûr de sa force en termes de possession et d'identification de jeu, ils ont gagné la bataille de la possession sur l'ensemble du match. Et en plus, derrière, ils gagnent le match. Donc c'est fabuleux. Franchement, le message envoyé, il est très fort. Maintenant, c'est pas pour autant que Paris va encore gagner la Ligue des Champions. Il y a encore un long travail. Mais ce qui est plus inquiétant, moi je vois ça du côté de Barcelone, qui était très sûr d'eux, c'est de se dire, mais on s'est fait manger par ce PSG-là. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des grands clubs européens qui se sont dit ce que certains, et encore une fois, moi je les juge pas, chacun a son avis. On en a parlé ici même avec Luis Campos, Benoît. Tu disais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se posent la question, et en Europe aussi, en disant, mais le PSG, ils ont pas recruté, si tu veux, des joueurs pour compléter un petit peu leur effectif qui est, du moins l'équipe type, où les 14 joueurs sont rayonnants. Et à l'arrivée, ce genre de prestation hier, de victoire, bah ça donne déjà beaucoup d'expérience aux jeunes joueurs, parce que là tu en acquiers vraiment beaucoup sur un match comme ça à Barcelone. Retourner comme ça, je peux te dire que Mbaye aujourd'hui, quand il se lève, il va à l'entraînement, et le match de ce week-end, s'il joue contre Lille, ça sera pas le même, parce que la confiance est totalement, mais... et tous ces jeunes là ils sont confortés, et pas que les jeunes qui ont pas beaucoup de minutes derrière eux, même un mec comme Zaïre Emery, et vous savez que j'ai été très critique avec Zaïre Emery. Et Jean-Michel, il faut reconnaître quand juste quand il est bon.
Non, mais je m'étais dit juste là.
Mais Zaïre Emery hier, je l'ai reconnu. Là, Zaïre Emery mérite d'être en équipe de Jérôme, France tous les jours quand Jérôme, il fait des matchs comme ça.
C'est mieux quand il joue à sa place.
Moi, j'entends ce que tu dis, Jérôme. Oui. Juste si je peux pondérer, parce que moi, j'ai pas du tout changé d'avis par rapport à la victoire d'hier à Barcelone.
Non, je sais.
Pour moi, c'est toujours la même problématique. Je suis désolé. Tu gagnes hier parce que tes hommes forts sont très forts. Parce que Vitinha est fort. Il débute mal, mais ensuite, il est bon dans le match. Tes deux latéraux sont très forts. Et moi, je ne change pas d'avis. Je te dis toujours, la problématique est la même. Si certains de tes joueurs clés sont absent, tu vas souffrir.
Mais
si Hakimi n'est pas là, c'est là la carence du mercato parisien.
Parce que Dembélé, Gvara et Doué, c'est pas des hommes clés.
Et Joao Neves et Marquinhos, non?
Eux, il y a des solutions de remplacement. Pas à ces postes-là.
Non mais
les latéraux, je suis désolé, c'est compliqué.
Mais tu plaisantes ou quoi?
Non, je plaisante pas.
En fait, là, ouais, Jean-Michel, vas-y. Là où tu dis une bêtise, Benoît, excuse-moi.
Hein, non.
C'est que hier, en effet, tes hommes forts sont les deux latéraux. Tu viens de le dire.
Ah oui.
Nuno Mendes
et
Hakimi.
Les deux passes décisives, c'est deux passes décisives.
Oui, mais c'est la vérité du match d'hier. Mais il y a le match contre le Bayern dans 3 semaines, après la trêve internationale, le prochain match au Parc des Princes. Peut-être que la finition, le point fort du Paris Saint-Germain, ça sera
autre que ces deux latéraux.
Sauf que,
parce que ça sera la vérité
pas,
de ce match.
Si un des deux est absent, mais tu le verras là, tout de suite. Ça sera plus préjudiciable pour le PSG que notre absence.
Là où tu te fais rattraper par ce que tu dis, c'est que le milieu de terrain, on l'a dit, et c'est normal qu'on le dise, quand ils ont dominé l'Europe comme ils l'ont dominé tout au long de l'année dernière, et pas que les six derniers mois, contrairement à ce que certains peuvent nous dire, le milieu de terrain Vitinha, Ruiz et Joao Neves, il a été titulaire du début jusqu'à la fin l'année dernière, quasiment tous les matchs. Ils ont été merveilleux les trois, merveilleux. Mmh. Moi, je me suis dit hier avant le match, entre un Vitinha qui est à 50%, on va dire à 60% hier, Neves forfait de dernière minute.
Ouais.
Je me suis dit, waouh, ils vont souffrir parce que en face, c'est quand même ce qui se fait aussi de mieux en Europe, le milieu de terrain.
Ouais.
Et ben, le trio, il a explosé avec le forfait de Joao Neves et la prestation de Vitinha.
C'est ce que je disais, c'est qu'ils ont mal débuté.
Mais c'est pour ça. Et tu mets Zaïre Emery. Tu vas pas lui demander à Zaïre Emery. Contrairement à ce que j'ai pu faire moi de temps en temps, c'est de le comparer à Joao Neves ou à Ruiz ou à Vitinha. Mais hier, il fait du Zaïre Emery, c'est-à-dire que il compense, il court beaucoup, il rentre dans les duels, il gagne tous ses duels, quasiment tous ses duels. J'aimerais bien voir les fameuses data là, parce que je les ai pas regardées, mais j'imagine que c'est 4 duels de gagnés sur 5 hier Zaïre Emery. Il est totalement dans ce qu'il peut faire et il a apporté autre chose que Joao Neves, mais ça a permis au PSG, parce que collectivement, c'est des monstres, ils sont monstrueux ensemble. De dominer ce qui se fait de mieux en Europe. Alors, au milieu de terrain.
Valérie, donc,
c'est là que l'importance de l'entraîneur rentre.
Ben oui.
C'est qu'en
bonsoir.
Fait.
Salut Valérie.
Salut Val.
Elle s'invite, t'as raison Valérie.
Bonsoir Val.
Pardon.
Ça va Valérie,
bonsoir. Avec plaisir. Ça va très bien. Ça va très bien avec une victoire pareille. C'est extraordinaire. Alors moi, ce que je voulais dire, c'est que on a quand même un entraîneur qui mange football, qui vit football, qui aime le football. Et ça, il a réussi à l'inculquer à ses joueurs. Alors, les joueurs types aussi, mais aussi aux nouveaux. Parce que ce qu'on a vu hier, les petits jeunes, eh ben, ils n'ont pas peur. Ils y sont allés, ils ont joué leur match. Quand on voit un Maiolo qui se retrouve tout seul devant le gardien, il y en aura plus d'un qui aurait dit chef, je fais quoi? Ben non. Il est allé, il a mis son but, il a planté une grosse patate. Et voilà. Et franchement, c'est ce qu'on a envie de voir. Et là, on le voit. Et maintenant, effectivement, il y a ce problème de recrutement, etc. Mais là, est-ce qu'il n'aurait pas ces petits remplaçants là qui peut faire tourner pendant jusqu'à Noël?
C'est ce qu'il souhaite. Hein.
Pour soulager.
C'est ce qu'il souhaite.
Eh ben voilà. Moi,
c'est
je dis,
il aura besoin.
Un chanteur jeune, il en aura besoin. On a vu un Zaïre Emery qui était pas bon en début d'année. Il était moyenasse, comme dirait Moscato. Là, il a fait un match. Super.
Ouais, c'est vrai.
Franchement, c'est vrai. Ouais, comme toi, j'aimerais bien voir les stats parce que franchement, là, je pense que chaque joueur s'est donné et je pense qu'ils l'ont fait pour leur entraîneur, pour montrer que effectivement, il faut les attendre.
Bon, je suis pas sûr qu'ils l'aient fait pour leur entraîneur. Déjà, ils l'ont fait pour eux parce que l'entraîneur est avec le groupe et on le voit, il y a une vraie union entre tout le monde au club et c'est pour ça que t'as gagné la plus belle des compétitions. Donc, ils l'ont fait ensemble parce que, en fait, ce que dégage Luis Enrique, c'est cette sérénité, cette confiance qu'il inculque et qu'il transmet aux jeunes joueurs. Mmh. Parce que j'imagine hier quand même que il y en avait qui avait un peu le trouillomètre à zéro avant le match. La vérité, c'est ça. C'est que quand tu joues à Barcelone contre ce qui se fait de mieux en Europe, tout le monde disait Barcelone, c'est avec le PSG, c'est la meilleure équipe européenne.
Mais je disais, on va prendre notre revanche.
Même avec Rafinha, ils étaient énervés et tout ça. J'imagine que quand tu manques d'expérience comme Mbaye, comme Maiolo, comme Zaïre Emery qui était pas bon depuis plus d'un an, ça faisait plus d'un an que j'avais pas vu faire un match comme ça, plus des joueurs qui sont pas à 100% parce qu'ils reviennent de blessure, Barcola, Vitinha, des nouveaux Zabarni. Bah, tu te dis oui, beaucoup d'investissements, mais est-ce qu'il va gérer l'absence de Marquinhos, parce que Marquinhos est ton capitaine. Tiens, quand tu vois comment il transmet tout ça, que le staff technique transmet autant de confiance à ces joueurs-là, et ils sont focus, parce que moi, en fait, ce qui a à noter sur le match d'hier, et je finis là-dessus, c'est que quand tu vois les changements de Luis Enrique sur la deuxième mi-temps, il te le dit lui, et on l'a tous constaté, elle est énorme du Paris Saint-Germain, vraiment. Où il maîtrise tout de A à Z, les autres, ils frappent que deux fois au but sur toute la mi-temps, alors que le PSG, ils ont 7-8 frappes en deuxième mi-temps. Mais c'est dans ces changements, les prises de risque,
qui fait.
Même l'entrée de Lucas Hernandez était intéressante.
Mais oui, Lucas Hernandez, tout le monde a dit, il a fait monter Nuno Mendes d'un cran. Et puis Gonzalo Ramos qui rentre à la place d'un milieu de terrain à Ruiz pour apporter, parce qu'il savait que là, ça penchait. Ils ont insisté comme ça en libérant un peu plus Hakimi.
C'est ce qu'on a dit, c'est la franchement, victoire de magnifique. Luis Enrique. Merci Valérie d'être venue au 32-16. À bientôt sur RMC. Tony, vas-y, le mot de la fin.
Ouais, non, en plus, je dis, c'est, on sent quand même que, regarde, les mecs, quand ils rentrent, ils font pas la gueule. Ramos, il rentre, tu le sens pas dépité, alors qu'il aurait pu se dire, merde, j'aurais pu jouer, là.
Ouais, tu vois,
et là, il rentre, et l'aspect positif, c'est qu'il rentre, il marque, il est content, tout le monde est content, t'as l'impression que le mec joue ou pas, le coach a réussi à fédérer derrière lui, tu vois, derrière toute l'équipe, quoi.
Arthur Perrault d'être venu.
Salut, messieurs.
À très bientôt dans Rotten sans flamme. Voilà, grand débat autour du Paris Saint-Germain. Après la victoire à Barcelone, dans un instant, la suite des meilleurs moments de Rotten sans flamme avec deux procès de qualité. Le premier, le procès de Florian Thauvin, accusé de ne pas être une légende de l'OM. Et le deuxième, le procès d'Ilia Zabarni, qui lui était accusé de ne pas répondre aux attentes. A tout de suite sur RMC.
RMC, les meilleurs moments de Rotten sans flamme.
Benoît Boutron.
Les meilleurs moments de Rotten sans flamme jusqu'à 20h ce soir sur RMC. Une nouvelle fois, je vous souhaite en avance une merveilleuse année 2026 en ce 31 décembre. Faites attention, si vous prenez la route, restez à l'écoute d'RMC. On est là jusqu'à 20h pour les meilleurs moments de la première partie de saison de Rotten sans flamme. Dans un quart d'heure, Allo Jérôme, spécial OGC Nice avec deux figures niçoises qui nous ont rendu visite cette saison. Alain Marchal des Grandes Gueules, Alexis Bozetti, ancien joueur et membre des Ultras. Mais tout de suite, les procès de Rotten sans flamme. Le premier concerne Florian Thauvin, accusé de ne pas être une légende de l'OM, procès du 24 octobre. Le deuxième, le procès du 22 octobre, celui d'Ilia Zabarni, qui lui était accusé de ne pas répondre aux attentes. Écoutez.
RMC, Rotten sans flamme.
Alors, est-ce que vous les connaissez, ces joueurs de football?
J'en connais quelques-uns, bien sûr. Je connais Zazie, je l'adore comme joueur.
Le procès de Rotten sans flamme.
Il y a certaines archives qui ne vieillissent jamais. C'est toujours aussi agréable à écouter. Retrouvaille attendue demain soir en Ligue 1 à Bollaert entre Florian Thauvin et l'Olympique de Marseille. Thauvin est revenu dans le championnat de France l'été dernier. Après 4 années passées à l'étranger, bon début de saison pour lui. Il a même retrouvé l'équipe de France sur la dernière trêve internationale. Thauvin à l'OM, c'est 8 années passées. 281 matchs, 86 buts, 54 passes décisives avec cette saison 2017-2018 magnifique. Souvenez-vous, il avait atteint la finale de la Ligue Europa. Ça lui avait permis d'aller faire la Coupe du Monde et de devenir champion du monde avec l'équipe de France. Le problème, c'est le palmarès. Aucun trophée remporté avec l'OM. Finale de Ligue Europa, finale de Coupe de France, vice-champion de France 2020. On ouvre donc le procès de Florian Thauvin, accusé de ne pas être une légende de l'Olympique de Marseille avec un procureur. Monsieur Jérôme Rotten, bonsoir.
Ah, je suis resté.
Bonsoir.
Deux avocats pour Florian Thauvin. Maître Larquier, bonsoir.
Dans cette galère.
Bonsoir.
Et Maître Vérel, bonsoir.
Bonsoir, messieurs.
Pourquoi je me retrouve dans cette
galère? Et puis le juge, c'est Frédéric, supporter de l'OM au 32-16. Salut Frédéric.
Bonjour.
Sois le bienvenu. J'espère que tu seras objectif. Et je précise.
Je suis objectif sans problème.
Je précise à tous ceux qui nous écoutent qu'on ne force personne. Chacun choisit sa prise de position lorsqu'on élabore le procès en début de journée. Allez, allons-y justement, ce procès.
On change les termes du.
Allez, vas-y.
La phrase, l'intitulé, moi, il me plaît pas. Pourquoi? Parce que accusé de ne pas être une légende, déjà, il est pas accusé de ne pas être une légende.
C'est le principe du procès.
Il a marqué.
Comment ça a changé d'avis?
Mais Flo Thauvin a marqué le football marseillais, c'est une certitude, déjà par sa longévité, par son nombre de matchs joués.
Ah, il n'y a pas de débat.
Et par ses stats, parce que il y a des joueurs qui peuvent rester 10 ans dans un club et qui vont pas forcément être très identifiés dans ce club-là ou marquer les esprits quand ils sont sur le terrain, parce que c'est des joueurs mineurs. Mmh. Tu vois, lui a toujours eu un rôle majeur dans toutes les équipes depuis qu'il est gamin et depuis qu'il arrive dans le milieu professionnel. Moi, je suis bien placé pour en parler parce que j'ai joué avec lui à Bastia. Il était jeune, il avait 17-18 ans. Il commençait à faire ses premiers matchs en Ligue 2 et puis après en Ligue 1, il s'est imposé. Donc, et quand il s'impose, et il avait pourtant à l'époque 18 ans, il c'était un joueur très influent sur le jeu de son équipe, comme il l'a toujours été, que ça soit à Lille, que ça soit au Mexique, même si on n'a pas vu tous les matchs. il est revenu, et tant mieux pour lui, en Europe avec Udine, où il a fait des très belles choses, et il confirme son retour avec Lens.
Personne n'a dit que c'était un mauvais joueur.
Donc tant mieux. Non mais tant mieux, et sa place en équipe de France, il est allé se la chercher, et moi je le félicite d'être revenu aussi vite. Mais après, si on joue sur le mot légende, oui. Non mais les gars, il faut arrêter de voir des légendes partout. Du moins une légende du football. Moi, j'ai eu la chance de jouer avec certaines légendes et de jouer contre des légendes. Légendes, avec un grand L. Mmh. D'accord ? Donc, il n'y en a pas 15 000 des légendes. Et quand tu rentres dans le mot légende, dans un club, légende d'un club, c'est la longévité, ça c'est sûr, les titres gagnés, l'influence que tu as eue sur le terrain, et surtout, faire mieux que les générations d'avant et la génération actuelle ou les générations entre les deux. Pour autant, le mot légende, pour moi, des légendes d'un club, il n'y en a pas 50, les gars. Il n'y en a pas 50. Il y a 3-4 légendes par club. Alors après, à vous trier de savoir pourquoi.
Oui, mais il y en a un peu plus parce que
l'Olympique de Marseille.
Est-ce que Drogba, c'est une légende de l'OM, Drogba?
Mais non, c'est pas une légende de l'OM, Drogba. Alors les supporters, ils ont adoré son passage. Mais il a rien gagné en un an.
Bon.
Il a fait une finale de Coupe d'Europe.
Toi, on a compris, c'est le palmarès, ça compte.
Mais le palmarès, c'est en plus. Que ça soit un joueur très important, très identifié OM, il n'y a pas de problème. De sa génération, oui. On retient Payet et Thauvin. Ça, c'est la vérité. Oula. Et Mandanda. Mais le reste, arrêtez, il n'est pas sur la même lignée que ceux de 93 qui ont gagné la Coupe d'Europe, ou ceux de 91 comme Jean-Pierre Papin. Oui. Alors, légende de l'OM, tu mets Papin et Thauvin sur la même ligne.
Parole à la défense, les gars.
Oui, d'abord, on est très mal placé pour considérer ou pour évaluer la légende d'un club dont on n'est pas forcément supporter.
Exactement.
Je pense quand même que ceux qui sont les mieux placés pour décerner ce titre-là, ce sont les supporters.
Mais c'est des bêtises, ça.
Non, vas-y, Jean-Michel. Vas-y. Bon.
Et donc, je vais la jouer modeste. Il y a légende et légende. D'abord, comparer des joueurs sur des périodes différentes, c'est impossible. C'est comme quand tu compares des cyclistes, Fausto Coppi à Bernardino ou Eddy Merckx à Pogacar. Voilà. C'est impossible. Et puis, il y a des gens qui ont marqué la vie, l'histoire de l'OM, mais notre témoin ne s'en souvient pas ou il en a vaguement entendu parler. Et puis, il n'y a pas de petites légendes. Il y a des grandes légendes, il y a des immenses légendes, et puis il y a des légendes. Moi, les immenses légendes de l'Olympique de Marseille, c'est Jean-Pierre Papin, c'est Josip Skoblar.
Bah, c'est les légendes, des légendes, c'est le mot légende. Et puis, prends le dictionnaire.
Mais là, je ne vais pas utiliser des superlatifs. Pour les gens qui ont connu une petite période de vache maigre,
donc c'est forcément une légende.
Flo Thauvin aura marqué les esprits. Et pour ces gens-là, que ça te plaise ou que ça ne te plaise pas,
toi aussi,
Jérôme,
hein.
Que ça te plaise ou que ça ne te plaise pas, il a marqué les esprits, il a claqué presque une centaine de buts.
On est d'accord,
ce qui n'est pas donné à tout le monde.
C'est vrai.
Surtout avec une équipe où... c'était la période des vaches maigres.
Attention, on peut donc dire grand joueur, il n'y a pas de problème.
Je ne vais pas utiliser de superlatif. Je dis simplement que pour les gens qui ont connu Thauvin à l'OM, et notamment la période 2017-2018, je crois que c'est ça, non?
C'est ça. Finale de Ligue Europa et Coupe du Monde pour lui.
Eh bien, c'est une légende.
Allez, Tony, qu'est-ce que t'en penses? T'es d'accord avec
Jean-Michel? Jérôme, pour toi, est-ce que Chris Waddle, c'est une légende de Marseille?
Ah, Chris Waddle...
Ça convoque des souvenirs plus jeunes. C'est ça la différence. Alors qu'il a pas gagné la Ligue des Champions.
Il a pas gagné la Ligue des Champions. Ouais. Il a fait 140 matchs, 28 buts avec Marseille.
Ouais. Bravo Tony.
Donc si tu veux,
Oui, mais c'est pas la même. Il dégage pas la même chose que.
Et bien sûr,
que
pourquoi? Parce qu'il avait une coupe mulet, parce qu'il a marqué son époque, parce qu'il était marrant, parce qu'il.
Non, mais bien sûr. Plus jeune et que t'as vécu ça.
Non, bien sûr. Et puis moi, c'était
parce que
il avait joué le charisme du joueur.
Parce que l'OM avait une période incroyable.
Et oui, c'était en finale des champions.
C'est sûr, mais c'est pour ça que
c'est plus facile d'être bon avec des bons joueurs qu'avec des mauvais joueurs.
Et c'est pour ça que Jean-Mi, il a raison de dire, c'est impossible de comparer
là, parce qu'autrement.
Bravo Tony. Bravo, tu lui as cloué le bec, Tony. Est-ce que ça fait pencher le juge en ta faveur?
Mais qu'est-ce que tu me racontes,
Frédéric, qui gagne ce procès alors?
Alors, pour moi, c'est Jean-Michel qui va gagner le procès.
Ah, donc Jean-Michel et Tony. Ok.
Oui, mais Tony.
Ah, bah voilà. Marqué. T'as coupé.
Ah, on t'entend mal, Frédéric.
Bon, on a de bons souvenirs, mais il était très controversé aussi. Par contre, c'est pas.
SSMC. Ah, mais Tony.
Joseph Scrum. Voilà. Roger Madison.
Ah. Oui, on t'entend mal, Frédéric, mais on a compris le verdict. Victoire de Jean-Michel et Tony.
Il avait donné raison, là.
Non, il parlait de Joseph Scobla.
Jean-Michel, tu te rends compte ce que t'as dit, je retiens ta phrase, c'est il y a des grandes légendes et des petites légendes. Alors là, celui-là, c'est incroyable.
Il y a des grandes légendes.
Non, il y a des légendes et il y a des grands joueurs. Il y a des légendes et des grands joueurs. Voilà. Et des légendes, je suis désolé.
Je reconnais, j'ai pas compris.
Les légendes qui n'ont pas gagné de trophée, ben moi je vous félicite, les gars.
Okay.
Les mecs sont des légendes sans gagner un trophée.
Alors ce qui moi, est quand même avec ce que j'ai gagné, le but doit être une immense légende.
Mais toi, tu es une légende des Verts, Jean-Michel.
Il a pas gagné la Coupe d'Europe, Jean-Michel.
Mais il a gagné combien de titres de champion?
Ben et alors?
Bon ben,
si le révélateur c'est ça.
Mais il a même pas gagné une Coupe de France.
Est-ce que Zlatan c'est une légende du PSG alors?
Zlatan?
Oui.
Oui, c'est une légende du PSG.
Mais la différence.
Mais Zlatan, il a marqué l'histoire du PSG, bien sûr, c'est une légende.
Il a pas marqué l'histoire de l'OM.
Ceux qui me disent que Zlatan n'est pas une légende du PSG, ben écoute, qu'ils viennent là me l'expliquer.
Eh ben tiens, non, on organisera ça.
Allez, mais par contre, dans le mot légende au PSG, il y a des grands joueurs qui sont passés.
Oui.
Mais il y en a pas plus que 5 légendes.
Ah.
Et après les autres sont des grands joueurs, mais il y a pas. Alors dans ces cas-là, avec la façon de penser de Tony et de Jean-Michel, au PSG depuis l'arrivée des Qataris, il y a que des légendes.
Voilà. Non, mais
que des légendes.
Avec ta
jaloux
pensée,
parce que tu n'es pas considéré comme une légende.
Je ne suis pas jaloux.
On te mettait dans les légendes de Monaco.
Je suis premier à te dire que je ne suis pas une légende au Paris Saint-Germain.
C'est fini.
Jean-Michel, tu disais c'est les supporters qui eux ont le droit de dire si c'est une légende ou pas.
Mais
c'est que moi, regarde, je viens de te dire qu'au PSG, je ne fais pas partie des légendes du PSG. D'accord? Ok. Eh ben, sache qu'à l'équipe des 35 ans du club, à l'époque, quand j'y étais, ça faisait 35 ans que le club était là, l'équipe type des 35 ans, les supporters m'ont mis dans l'équipe type.
Non!
Donc, m'ont mis avec les légendes du PSG.
Il a fini par se placer.
Mais non, mais c'est pas moi qui me suis placé.
Allez, il faut y
c'est
y
les supporters. Non, je finis là-dessus, c'est important. Et ils m'ont mis devant David Ginola. Je te promets. J'avais honte. J'avais honte parce que David Ginola, j'ai été amoureux du PSG avec David Ginola. Mmh. Et pourtant, les supporters avaient décidé ça.
RMC, Roten sans flamme.
C'était vraiment des faux derches de première qualité. Ça m'énerve de perdre. Le football français est dans le trou à cause de réflexions et de raisonnements comme ceux que vous avez. Tu es capable de me mettre sur le même plan Didier Deschamps et Mathieu Guendouzi?
Non, je te parle.
Le procès de Roten sans flamme.
Qu'est-ce qu'il vient faire, Guendouzi?
Ah bah oui. C'était un fameux débat, un milieu de terrain, Guendouzi, Tchouaméni en équipe de France. T'étais un peu sorti de tes gonds. Ce jour-là.
Ah, c'est Tony qui avait comparé.
Ouais. C'est pas fou. Le bémol de la soirée du PSG hier, c'est donc Ilia Zabarni, mauvaise prestation, seul joueur de champ recruté cet été par Paris. Deux pénaltys concédés en première période, main à la 24e, tirage de maillot à la 37e. Carton rouge direct d'ailleurs sur la deuxième action, alors que Leverkusen était mené 1-0 et évoluait déjà à 10 contre 11. Il est déjà apparu en difficulté le week-end dernier face à Strasbourg, battu dans son duel avec Panicelli. Et je rappelle qu'il a été recruté 63 millions d'euros cet été en provenance de Bournemouth. On ouvre ce soir le procès d'Ilia Zabarni, accusé de ne pas répondre aux attentes. Un procureur, Jean-Michel Larquet, bonsoir.
Bonsoir messieurs.
Deux avocats pour le défenseur central ukrainien, Maître Jérôme Roten, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Et Maître Jean-Pierre Papin, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Et le verdict va être rendu par Florian, supporter parisien au 32-16. Salut Florian.
Bonsoir à tous.
Allons-y pour ce procès. Monsieur Larquet, qu'est-ce que vous reprochez alors à Ilia Zabarni?
alors je vais bien répondre à la question qui est posée, c'est de savoir si Zabarni répond aux attentes ou ne répond pas aux attentes qui sont mises en lui.
Tout à fait.
Bon, c'est bien la question. Aujourd'hui, je constate que ce jeune défenseur, mais qui a déjà une expérience, il a commencé en pro très jeune, il avait 17 ou 18 ans, ouais. Il a donc déjà, et puis il est passé par Dynamo de Kiev, qui était le plus grand club ukrainien, il est passé par Bournemouth, où il a fait des bons matchs, il a été transféré, vous l'avez rappelé monsieur le rapporteur,
ouais, ça, c'est plus, la de millions, Wikipédia, hein.
Plus de donc 60 ça... millions d'euros, tout ça, laissez imaginer que ce garçon-là s'imposerait ou en tout cas aurait un niveau conforme aux attentes. Alors,
quel poids il fait ?
Je ne dis pas que Zabarni est un mauvais joueur, qu'il a les pieds carrés. Je dis simplement que le Paris Saint-Germain s'attendait certainement à mieux qu'il n'a fait jusqu'à présent. Et puis, pour aller dans le sens de la mise en confiance de ce garçon-là, on ne le condamne pas sur un match. Ça fait 5 ou 6 matchs d'affilée qu'il fait. Il en a fait peut-être un de correct, un de bon. Le reste du temps, il est en retrait par rapport à ce que l'on espérait, par rapport aux attentes qui sont mises en lui. Je répète bien, là, je ne juge pas de la qualité en disant il est bon, il est nul ou il est moyen. Je dis simplement qu'on attendait mieux de ce garçon-là. Et je reste sur mon impression première, qui va peut-être être démentie lors du prochain match, mais Arthur Perrault l'a bien dit, Luis Enrique lui-même se pose la question. Il a préféré un Zabarni peut-être fatigué, encore qu'un défenseur central, quand il joue contre l'Azerbaïdjan ou l'Islande, ça m'étonnerait qu'il se fatigue beaucoup, mais entre un Zabarni un petit peu fatigué et un Marquinhos qui n'est pas tout à fait remis. Mais aujourd'hui, je suis sûr que dans la tête de Luis Enrique, pour les matchs importants, s'il avait à choisir entre Zabarni et Marquinhos, il prendrait Marquinhos en attendant que Zabarni réponde aux attentes qui sont mises en lui.
Voilà, c'était clair, concis. Parole à la défense, Maître Roten.
Ouais, ben on vient d'apprendre que Marquinhos était le titulaire de cette équipe et que Zabarni est le remplaçant de Marquinhos. Ben ça, c'était écrit de toute façon.
Zabarni a été recruté pour en concurrence avec Marquinhos.
Zabarni, il n'a pas été recruté pour mettre de la concurrence avec Marquinhos en disant... pour l'instant, la concurrence, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au début de l'année...
Ben, c'est-à-dire qu'il y a un poste et il y a deux joueurs pour ce poste.
Ben oui, donc ça veut dire qu'au début de l'année, il n'y a pas de hiérarchie. Moi, excuse-moi...
C'est exactement ce qu'a dit Jean-Michel.
Mais il y a une hiérarchie à Paris. Marquinhos est le titulaire, et même si Zabarni est arrivé pour 65 millions d'euros, Marquinhos...
C'est pas la question, qui est posée.
S'il te plaît, je t'ai laissé parler.
S'il te plaît.
Voilà.
Mais c'est pas la question qui est posée.
Moi, je dis juste que c'est trop facile et surtout trop dur de tomber sur Zabarni aujourd'hui. Du moins, ça fait 2 mois et demi qu'il est là. En effet, je pense que par rapport à sa signature de contrat, on lui a annoncé les choses, on ne l'a pas surpris, même si c'est 65 millions, c'est beaucoup d'argent, on lui a bien fait comprendre que Marquinhos aujourd'hui était là, il était bien, il l'a montré tout au long de l'année dernière, c'était le capitaine de cette équipe,
donc
il sera si tu veux en retrait, il jouera des matchs. Le problème, c'est que Zabarni, il a beaucoup joué depuis le début. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des blessures partout, dans toutes les lignes, que Marquinhos s'est pété, que Pacho a soufflé. Alors un coup on lui met à côté de lui Beraldo, un coup c'est Pacho, un coup c'est Hernandez, un coup c'est un autre, un coup c'est un
c'est
autre.
C'est la faute aux autres. Oui, c'est
non,
ça,
je
oui.
dis juste que pour l'adaptation d'un joueur comme Zabarni. Et tu l'as dit, Jean-Michel. Et c'est là que je te trouve trop dur. Et bien sûr qu'on peut juste.
Mais je suis pas dur. J'ai pas donné une note comme Rotel sans flamme.
On dit juste, Jean-Michel. Je dis juste que, en effet, il y a beaucoup de piqûres de rappel, il y a beaucoup d'erreurs, à commencer par son match d'hier. Et il y en a eu d'autres, des erreurs, en effet. Et même avec l'Ukraine, quand il a joué l'équipe de France, franchement, il a pas rassuré. Moi, je dis juste que l'adaptation, pour un joueur comme ça, il découvre un pays, il découvre surtout une équipe qui a été championne d'Europe l'année dernière.
Mais on est d'accord, Jérôme, il ne répond pas aux attentes qui sont mises en lui.
Mais non, mais on est d'accord. Aujourd'hui, c'est même je pas répondre aux attentes, parce que, à mon avis, je suis. J'aimerais savoir, j'aimerais être la petite souris dans le vestiaire et être dans la tête de Luis Enrique ou de Luis Campos qui ont recruté Zabarni.
Pour savoir ce qu'ils en attendent.
Mais je pense qu'ils vont te dire, mais nous on n'est pas surpris. En fait, la seule surprise qu'on a, c'est que il a beaucoup joué malgré tout pour l'adaptation.
Des erreurs hier quand même.
Mais non, mais attends, on peut pas dire que Zabarni aujourd'hui est une erreur de casting. Vous imaginez qu'ils ont mis,
ils ont mis, la question.
Ils ont mis 65 millions. Le mec, c'est un Ukrainien. Il arrive, il découvre la France, d'accord. Donc il découvre un vestiaire.
Il est passé quand même 2 ans en Angleterre.
Oui, mais d'accord. Il découvre la France, qui est un vestiaire qui a beaucoup gagné, d'accord. Donc pour s'imposer, c'est déjà compliqué.
Alors,
c'est un jeune joueur. Donc moi je dis juste
que
cette année il a été pris sur plusieurs années, mais que cette année il était là pour apprendre et pour s'adapter, pour s'acclimater, que là en effet parce
j'ai
qu'il
trop
joue...
entendu que Marquinhos était au bout du rouleau pour
mais qui a dit ça mais qui a dit les conneries comme ceux qui disaient l'année dernière que le milieu de terrain du PSG pouvait pas rivaliser avec tous les autres milieux de terrain en Europe et que avec ce milieu de terrain du Paris Saint-Germain ils n'y gagneront jamais rien. À l'arrivée aujourd'hui tout le monde nous dit le milieu de terrain mais non, mais tu parles de Marquinhos, les gens qui ont critiqué Marquinhos l'année dernière comme quoi il était carbonisé.
Attention,
mais quand même
ça va se terminer avec Jean-Pierre, je te le dis.
Jean-Pierre, allez, j'écoute ce que vous me dites, bien évidemment. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est un garçon qui a fait quelques erreurs, mais moi je peux pas lui jeter la pierre comme ça du jour au lendemain. Je suis un peu d'avis avec Jérôme, c'est que je pense qu'il devait pas être, il devait pas jouer au départ le plus souvent possible.
Ben oui.
Il était là pour au cas où. Ça me rappelle un peu l'histoire de Pacho l'année dernière quand il est arrivé, où tout le monde commence à lui tomber dessus parce que les 2-3 premiers matchs n'avaient pas été extraordinaires. Moi, je crois que c'est un garçon, il faut lui laisser un peu de temps. Je pense que c'est un garçon aussi. Je pense que c'est un garçon qui doit vivre des choses que nous, on ne peut pas comprendre ni imaginer avec ce qui se passe dans son pays. Et je crois qu'à un moment, il y a des choses qui sont plus graves que ce que peut faire le football. Donc il a des circonstances atténuantes, ouais, oui, bien évidemment.
Je suis d'accord avec toi.
Je défends mon joueur.
C'est que Jean-Michel dit qu'il ne répond pas encore aux attentes. C'est ça la différence entre vous,
Jean-Pierre. La différence, c'est que dans n'importe quel club, quand on change, on a besoin de temps. Et même quand t'arrives, que tu peux être le meilleur dans l'ancien club, quand tu arrives, ça peut très très mal se passer. Parce que tu connais pas le pays, tu connais pas la langue, tu connais pas tes joueurs à côté.
Allez.
Tu changes souvent.
Mais les circonstances atténuantes, je comprends qu'il en est.
Monsieur le procureur, s'il vous plaît, laissez-moi parler.
Il n'y a aucun problème là-dessus.
Vas-y Jean-Pierre, vas-y. Après c'est Florian qui rend son verdict.
Et je pense que à la fin, je pense que c'est un garçon qui a besoin de temps. Les qualités, il les a. Après, la pression, il en a un peu plus parce que justement, il doit être bon quand il joue. Et il a fait quelques erreurs. Mais c'est pas pour ça qu'aujourd'hui, on doit mettre Zabarni avec un trait rouge. Parce que je pense que c'est un garçon qui a énorme qualité et qui le montrera dans les prochains mois.
Florian, qui remporte ce procès ? Le procureur Larquet ou les avocats Roten et Papin ?
Moi, je suis plus du côté des avocats. Vous avez dit, il faut lui laisser le temps, il vient d'arriver. Après, si on doit vraiment répondre à la question, c'est vrai que Jean-Michel Larquet aussi, il n'a pas tort.
Aïe.
Est-ce qu'on attend aussi dans les gros matchs qu'il soit là ? Et on voit très bien que contre Leverkusen, qui n'est pas une grosse équipe de Ligue des Champions, avec les joueurs qu'ils avaient hier, il s'est fait avoir 2 fois dans le dos. Donc voilà.
Donc tu donnes la victoire à Jérôme et Jean-Pierre quand même.
Oui,
Okay,
oui. Jean-Pierre Papa.
Bon, très bien. Merci Florian.
Merci Florian, merci, tu reviens quand tu veux.
Et dans un instant, la suite des meilleurs moments de Rotten sans flamme avec le Allo Jérôme spécial OGC Nice. Les visites d'Alain Marchal et d'Alexis Bosetti. À tout de suite sur RMC.
RMC, les meilleurs moments de Rotten sans flamme.
Benoît Boutron.
Les meilleurs moments de Rotten sans flamme jusqu'à 20h ce soir sur RMC. Bonne année 2026 à tous en avance. Faites attention si vous êtes sur la route à partir de 19h. On sera encore là pour notre spécial Paris FC. On a rendu visite au Paris FC, à toutes les figures importantes du Paris FC. Il y a quelques jours, nous étions au centre d'entraînement à Orly avec Antoine Arnaud, Pierre Ferracci, Ilan Kebal, Maxime Lopez. Mais démarrons tout de suite donc par le Allo Jérôme.
Jérôme, spécial OGC Nice, avec les coups de gueule d'Alexis Bosetti et d'Alain Marchal, des grandes gueules.
RMC, Rotten sans flamme.
Ça fait deux pour les Romains, et c'est Mancini. Et c'est fini, c'est terminé la défaite pour l'OGC Nice, défaite 2-1. Malheureusement, cette campagne 2025-2026 commence comme la campagne 2024-2025. C'est terminé par une défaite donc pour les Niçois. Non mais oh, mais c'est quoi ce délire?
Allô Jérôme.
Tous les soirs, un acteur du foot s'invite dans Rotten sans flamme à 18h45. Un joueur, un entraîneur, un dirigeant, un supporter. Et ce soir, la légende Alain Marchal dans Rotten sans flamme. Salut Alain.
Bonsoir à tous. Très honoré d'être des vôtres. Là, sors du plateau BFM. J'ai fait 2 heures de
maquillé,
cravate. Maintenant, c'est un autre procès. Non, c'est moi, celui de l'OGC Nice.
Exactement.
Vraiment, recevoir le patron d'RMC. Ah ouais, moi, je dis chose. Bravo.
Voilà. Alain, on t'a convoqué parce que ton club de cœur a encore perdu en Ligue Europa hier contre la Roma. 13e match européen sans succès pour Nice. Ça fait 930 jours sans gagner un match en Coupe d'Europe.
Ouais, mais c'est pas grave.
Et ça fait mal.
6 défaites en 8 matchs, là.
Oh, mais c'est pas grave.
Non, franchement, je suis gavé.
Ah ouais.
Ah, je suis gavé, je suis énervé, je suis dépité. Tu sais, c'est le supporter, c'est un historien de l'instant. Et là, l'instant, là, il commence à être long. Tu vois, j'en ai marre. J'étais au match contre Benfica. Je me disais, bon, Benfica, la marche est haute.
Le tour préliminaire de Ligue des Champions.
Ouais, c'est ça. Et je voyais des joueurs apathiques.
Ah ouais,
je me dis, c'est pas possible, ils sont tétanisés. Oh les gars, j'étais avec les copains. J'ai dit, oh les gars, c'est la Coupe d'Europe, c'est Benfica. On est au mois d'août, c'est trop beau. Allez-y, envoyez un peu. Nada. Alors on avait 9 blessés, 8 ou 9 blessés.
Avec l'accent ou sans l'accent.
Tu vois. Et là contre l'AS Roma, c'est une belle marche. Tu vois, c'est quand moi j'interviewe un homme politique important. Tu vois, tu t'as le trac. Tu peux avoir, mais tu te prépares et après t'y vas.
Un peu ce que t'as eu quand t'es arrivé là. Pour
c'est
te passer
un peu ça. C'est Louis m'a dit vas-y, ça va bien se passer là. Ouais. C'est le coproducteur des GG m'a dit fais attention.
Ah, t'es venu avec ta gouvernante. Ouais,
c'est les aidants. Tu sais, pour les personnes âgées, faut les aider, faut les aider à s'asseoir. Et là, contre la Roma, je me suis dit mais c'est pas possible. Mais elle est où la niaque? Ils sont où? Elle est où l'envie de se dire on va faire un gros coup? En plus, le stade est beau. Il y a des tifos qui sont magnifiques.
Qui, t'en veux à qui?
J'en veux à ceux qui sont sur le terrain, c'est-à-dire les joueurs.
Déjà, ouais.
Tu vois, déjà, en première chose.
À Francaise aussi.
Et puis après, je me dis, l'entraîneur, il les prépare comment? C'est pas possible.
Manu est pas de votre avis.
Alors Manu.
Non, vraiment pas.
Moi non plus.
Ah, bah, Tony.
Alors, vraiment pas.
Donc, t'as aimé la prestation des Niçois?
Sincèrement, moi je pense qu'ils ont joué avec leurs armes. Après, j'ai trouvé l'AS Rome est super bien organisé dans le système Gasperini. Tu vois tout ce qu'il a fait à l'Atalanta, on l'a vu hier à la Roma. Et quand tu vois le début de saison de la Roma, ils prennent quasiment pas de but. Alors c'est une équipe qui marque pas énormément de buts, mais qui n'en prend quasiment pas. Donc ça a été quand même très 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 dur. Derrière, c'est vrai, le début de deuxième mi-temps, les plombes en l'espace de 2 buts en trois minutes. Mais quand je regarde l'effectif de l'OGC Nice, quand je regarde l'ambition d'Ineos, quand je regarde l'ambition de Radcliffe, je me dis, on peut pas fustiger justement l'effectif de l'OGC Nice.
Quand il est bien en plus.
Mais quand je regarde l'effectif de l'OGC Nice hier, il y a 4 joueurs qui ont l'expérience européenne. Sinon, c'est que des jeunes.
Manu, tu perds 6 matchs sur 8 depuis le début.
Mais c'est pour ça que je suis en colère.
Mais oui,
parce qu'on a un effectif qui permet normalement de jouer correctement.
Alain, je suis désolé parce que ta colère, elle va durer toute la saison. Et vous, enfin, en tout cas, sur les prochaines semaines, parce que quand je vois les adversaires de l'OGC Nice, c'est le calendrier le plus démentiel que peut avoir un club français en Coupe d'Europe cette année.
En Ligue Europa,
c'est impressionnant.
On a le Celta Vigo et Fenerbahçe.
Fenerbahçe, Vigo, Fribourg, Porto, Braga.
Voilà. Ah, mais c'est vrai que c'est Celta Vigo, c'est l'ordre espagnol.
C'est très, très dur.
Non, mais Celta Vigo.
Là où je peux te rejoindre, c'est sur la politique menée.
C'est comme le Real.
C'est la politique menée de l'OGC Nice. Et pour moi, ça doit passer par un changement d'actionnariat. Ça doit passer par un changement de propriétaire avec une nouvelle dimension parce qu'on voit très, très bien. Et d'ailleurs, hier, il y avait des grands plans de Radcliffe dans les tribunes. Ils sont complètement désabusés, complètement à des années-lumière de son club. Il n'était pas connecté avec le reste. On sent qu'il n'en a plus rien à faire de ce club-là. Donc je pense que c'est ça, en fait, qui doit changer.
C'est dommage.
On doit insuffler une nouvelle
année. Non, mais attends.
Non, mais Manu, il y a des gens qui travaillent très bien dans le club.
Jérôme Manu, juste en un mot. Moi, je suis finalement, je vais te dire, pourquoi je suis aussi en colère que ça? Parce que sur ces dernières saisons, on termine quoi? 4-5, 5-4.
C'est une anomalie, 4-5. L'année dernière, tu mérites pas ça.
Mais heureusement qu'ils n'ont pas joué à Champions League, d'ailleurs.
On termine 4-5, 5-4. Ouais. Moi, je te parle en tant que supporter.
Oui.
En tant que supporter, je suis content. Je me dis, bon, avec l'effectif et les problèmes qu'il y a eu, on arrive quand même dans la première partie du tableau. On joue le tour préliminaire. C'est le supporter qui vous parle.
Ouais, ouais, ouais.
Et derrière, je me dis, c'est pas grave. Si on rate, on a raté contre Benfica, même sans la manière. Mais je me dis, on est encore
en Coupe d'Europe. Donc le supporter, je suis, il a envie. Quand je vois les recrues qu'il y a, je me dis bon, on a quand même une équipe qui tient.
Mais t'as
qui
vu les joueurs qui sont partis en fin de saison
à peu près. Allez. Oui, mais justement
avec les Morello qu'il y avait déjà dans l'effectif la saison dernière.
C'est pour ça que je suis énervé. Voilà pourquoi je suis énervé, parce que je me dis on doit pouvoir y aller, on doit montrer qu'on a envie. Ratcliffe, il devrait être content d'avoir une équipe qui est 4-5-5-4 plutôt que son Manchester qui termine combien l'année dernière. 16.
Exactement.
Bah voilà.
Alain, quelque chose me dit que et je vais te retrouver dans Rotten sans flamme dans pas longtemps. Parce que ça va durer.
Il accélère, passe point de jambe, il est face à Aise. Digard, le ballon pour Bozzetti, le contrôle de Bozzetti, le petit ballon, la frappe et le but. Le but d'Alexis Bozzetti, son premier but lui aussi en Ligue 1.
Allô Jérôme.
Alexis Bozzetti, ancien joueur de l'OGC Nice, supporter niçois, membre de la Populaire Sud, en direct dans Rotten sans flamme.
Salut Alexis.
Salut. Très beau jingle.
Je me souvenais pas que t'avais marqué
Steve. L'équipe de Steve.
Ah, en plus contre Steve, Alexis, incroyable.
Alexis,
il était plus.
Je me souviens. J'apprends que t'avais marqué des buts en Ligue 1 quand même.
Ah non.
Plaisante.
Il a mis un but fantastique un jour à Nice Bordeaux. C'était Willy Sagnol, entraîneur de Bordeaux. Tu t'en souviens, je pense d'ailleurs. Un petit lob sublime.
Petit extérieur. Alors, à Carasso.
Alexis, tu es membre de la Populaire Sud. D'ailleurs, la Populaire Sud vient de publier un communiqué. C'est Maxime Tillette qui nous informe. L'association entend revenir sur les événements qui ont eu lieu dimanche au centre d'entraînement. L'association souhaite préciser qu'elle n'est pas à l'origine de cette manifestation, laquelle émane uniquement d'un mécontentement général des supporters suite aux mauvais résultats. Certains cadres ont contribué à l'apaisement ainsi qu'à la dispersion du rassemblement en collaboration avec les forces de l'ordre. Aucun membre de l'asso présent sur place n'a été témoin des prétendues violences ou dégradations alléguées par les joueurs. Comment tu as réagi déjà, toi, quand tu as appris ça? Tu n'étais pas sur place, Alexis. Est-ce que tu l'as senti monter, toi, déjà, tout ça, cette colère?
Moi, je m'y attendais. Bah, déjà, ça fait un moment que ça bouillonne, déjà. Pas que de cette année, mais des années précédentes. La Coupe d'Europe, l'année dernière, déjà, c'était un peu chaud. Cette année, il y a eu Benfica, il y a eu le Mercato, il y a eu le Derby, il y a eu Porto. Et là, je pense que là, c'était... Ça faisait un moment qu'il n'y avait pas eu de descente à Charles Herman. Donc, je pense que la cocotte minute, elle était beaucoup trop forte, on va dire. Parce que moi, j'en ai connu des descentes, mais jamais 400 personnes. Jamais 400 personnes à minuit à Charles Herman, c'est jamais arrivé.
Ouais, ça montre.
Moi, j'en ai connu une. Ils sont venus, ils ont arrêté l'entraînement.
En 2015, ouais.
Ils ont arrêté l'entraînement.
Claude avait été visé ce jour-là, d'ailleurs.
Ouais, ça avait été chaud, non? Ça avait été chaud. Il y a eu du chahut aussi, mais. Mais jamais 400 personnes.
Qu'est-ce que tu peux nous dire de la relation club-supporter? Parce que c'est peut-être un des nœuds du problème. Non, ça se passe bien, habituellement.
Elle est bonne. Bah, il y a eu le maillot des 40 ans. Il y a eu le tournoi à l'Allianz cet été. Non, les relations, elles sont assez bonnes avec le club. De ce que j'en sais, elles sont assez bonnes.
Quand t'entends, Alexis, les infos de la journée, de savoir Franck Hez présente sa démission...
Déjà, ça a pris des proportions énormes.
Mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Quand tu vois que l'entraîneur dépose sa démission, il est prêt à rendre les armes, quand tu vois que
mais
le directeur sportif...
Mais est-ce qu'il a posé aujourd'hui ou il a posé... Moi, aujourd'hui, la semaine dernière, il avait posé
mais aujourd'hui aussi.
Non, aujourd'hui, selon nos infos, il l'a posé sans indemnité.
Et il serait prêt à partir sans indemnité.
Aujourd'hui, ils sont au repos. Moi, j'ai eu pas mal de... Franchement, j'ai téléphoné. J'ai passé la journée au téléphone. Aujourd'hui, ils sont en repos, ils reprennent demain. Demain, il y a une réunion avec Bokeh, avec Maurice, avec le coach, avec le staff, les joueurs, tout le monde reprend demain. Et j'ai pas eu d'infos comme quoi il y avait une démission posée, donc on verra.
Non, mais t'as l'entraîneur, donc ça, c'est l'info qu'on te donne. Et puis, t'as surtout les joueurs aussi qui veulent plus jouer à Nice. Boga et Mofi, c'est le cas.
Ils jouent là? Moi, j'oblige personne à jouer pour Nice. Hein,
Alexis, tu peux en vouloir à des joueurs, mais il faut pas les passer les limites. Quoi.
Après, c'est ça.
Bien sûr, il faut pas dépasser les limites.
Il y a des plaintes déposées parce qu'on est allé trop loin.
La violence, justement,
bien sûr, faut condamner la violence. Ça n'a pas sa place dans même dans les mouvements comme ça. Mais comme justement, il y a eu des plaintes. J'attends l'enquête et voir j'attends de voir ce que va ressortir de l'enquête, parce que moi, des infos que j'ai eues, des coups vraiment portés, violence volontaire sur des joueurs, j'ai entendu propos racistes et tout. Enfin, il y a des agents qui ont bien bossé lundi.
Bah, laissons la justice faire son travail.
Ouais, exactement. Il y a peut-être des joueurs qui cherchent des portes de sortie. Enfin,
mais d'ailleurs, Alexis, la finalité de cette histoire, c'est que c'est finalement assez triste.
La finalité pour moi, là, je vois pas de suite là aujourd'hui. Je vois pas. Dimanche, on reçoit Angers. Qu'est-ce qui va se passer? Derrière, tu reçois Braga. Et après, tu vas à Lens pour finir la saison.
Si t'as un message à faire passer à ce club, parce que tu le connais parfaitement, à la fois au club, aux acteurs directs et aux supporters, tu voudrais leur dire quoi ce soir sur RMC?
Moi, au club, le message, je pense qu'il faut se mettre autour de la table, que ceux qui veulent rester prennent leurs responsabilités et parlent, déjà, parce que Ineos, on les entend pas. On n'entend pas Ineos aujourd'hui. Le président l'a pas entendu aussi. On a entendu personne. Et moi, je veux qu'il y ait un projet derrière. Le problème, c'est qu'il y a pas, en fait, à Nice.
Ben voilà, c'est ce que j'allais te dire. C'est qu'à court terme.
Le projet du club, il est à long terme, c'est quoi?
Non, mais regarde, aujourd'hui, à court terme. Alexis, à court terme. Allez, il y a une réunion demain. Ce week-end, vous recevez Angers. Là, ça va être, on va faire l'union sacrée. Tu sais, on aime bien. On va faire l'union sacrée, tout ça, machin. Allez, je te prends le cas de figure. 3 minutes de jeu. Parce que là, c'est arrivé dernièrement que vous prenez un but. Tu prends un but.
19 secondes.
Non, mais en plus, je vais même te dire un truc. Tu prends un but, mais tu sais, un but, tu commences bien le match. Tu marches. Et puis, t'as un joueur d'Angers, il te met une frappe à 40 mètres sous la barre pleine lucarne. Là, je veux dire, tu vois ce que je veux dire, les plans de jeu, tu peux faire ce que tu veux. Tu fais quoi? Là, tu sens qu'à un moment donné, ça va gronder, là? Parce que tu vois, c'est là la promesse de la direction.
En fait, je sais pas du tout la réaction du public dimanche de la Sud.
En fait, qu'est-ce qu'ils attendent? Toi, tout à l'heure, tu parlais d'appartenance. Et moi, on voit très bien dans les clubs ce que attendent les supporters. C'est pas tellement que le résultat in fine.
Ah non, mais c'est l'attitude. Moi, j'ai jamais rien connu.
Bah, tu vois ce que je veux dire? Et moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe à Nice, c'est que, tu vois, c'est un mot qui est très important, ce que tu as dit, c'est l'appartenance. Ils se sentent pas appartenir à un club qui a une certaine histoire, qui a des particularités, mais c'est aussi issu d'une gouvernance qui te donne pas d'identité. Et je reviens à la multipropriété. Je reviens là-dessus, les gars, depuis tout à l'heure.
Ineos veut vendre Nice, mais bon, aujourd'hui, qui va acheter Nice? C'est ça le problème. À 300 millions d'euros. Qui va acheter Nice à 300 millions d'euros aujourd'hui? C'est impossible.
Moi, Alexis,
je veux qu'il y ait des Niçois dans le club, qu'il y ait une nouvelle mentalité. Si ça doit passer par des joueurs, par des nouveaux joueurs, ça passera par des nouveaux joueurs, par des profils recherchés. Nice, ça a toujours été un club avec des joueurs d'Amérique du Sud, des joueurs des pays de l'Est, des Pešinović, des Svitanić, des Bjeković à l'époque, des Monzon, Ospina, Civelli, enfin bref. Ça a toujours été un club avec des Sud-Américains. Aujourd'hui, il n'y a plus un Sud-Américain, il n'y a plus un joueur des pays de l'Est, il n'y a plus de profil technique, joueur de ballon. Moi, aujourd'hui, je veux des joueurs qui sont peut-être moins bons, mais qui ont la grinta, qui savent où ils sont, dans quel club ils sont, qui ont du respect pour le maillot, pour la ville. Et puis ça ira tout seul. Mais à un moment donné, il faut une prise de conscience du club qu'il faut remettre des Niçois, même chez les jeunes. Chez les jeunes, il n'y a plus d'appartenance, il n'y a plus de résultats.
Un problème d'identité.
Non, mais ça l'identité, et j'imagine que tu en veux aussi et que tu as envie d'entendre le président, Bocquet.
Ah, mais moi, j'ai envie qu'à un moment donné, on arrête de dire on n'a pas d'argent, mais. Mettez l'identité, l'argent, ça fait pas tout. Quand je vois Lens, comment ils bossent aujourd'hui. Quand je vois le boulot qu'ils font à Lens, d'ailleurs j'embrasse Joe Gradier avec qui j'ai joué à Tours, qui s'est fait opérer. Quand je vois comme ça bosse dans certains clubs avec moins d'oseille qu'Ineos, surtout sur les dernières années. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'équipes qui aient un attaquant à 30 millions, à 300 000 euros par mois.
Alexis, merci beaucoup.
Plus d'identité, plus de Niçois. Et,
Alexis, c'est bizarre qu'à Lens, t'embrasse pas Jean Louléka.
Quand c'est bien, il faut le dire.
Merci,
moi, je suis prêt à aider le club, dans n'importe quelle position dans le club,
Merci, bon courage Alexis, à bientôt.
Merci, ciao.
La suite des meilleurs moments de Rotem sans flamme dans un instant, à partir de 19h, notre spécial Paris FC. Nous étions allés au centre d'entraînement des Parisiens au mois de décembre, c'était le 8 décembre, avec Antoine Arnault, le propriétaire, Pierre Ferracci, le président, et les deux joueurs majeurs, Maxime Lopez et Ilan Kebal. Les meilleurs moments de Rotem sans flamme jusqu'à 20h, restez avec nous, à tout de suite.
RMC, les meilleurs moments de Rotten sans flamme. Retrouvez Roten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.